105 Montréal.
Vivre Montréal, Montréal.
Alors, ici c'est IBL. On entre en onde bientôt. Dans 5 minutes.
C'est IBL 105 au cœur de Montréal.
C'est intermittent jusqu'à Wellington. Vers la rive sud, congestion depuis Turcot. Parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
Ah, cool. J'ai de la gym.
Parce que la 132 demeure encore occupée.
Il est 9h.
C'est IBL. 101.5.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le lundi 11 décembre et ici Charline Carreau, votre animatrice pour la meilleure matinale de Montréal. Et aujourd'hui, on reçoit l'aventurier Nicolas Roux qui a traversé le Canada du nord au sud pendant plus de 8 mois. Et puis ensuite, ce sera la chronique d'actu montréalaise de Quentin Dufresne pour finir avec la chronique philo de Michel Binette. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, des collectes de dons pour les profs en grève ont eu lieu samedi à Montréal, au CSS de Montréal ou encore à la Maison des Jeunes d'Anjou. Le public était invité à donner des chèques cadeaux d'épicerie ou encore des denrées non périssables. Par la suite, les dons ont été redistribués aux profs par les bénévoles de la FAE. Les 66 000 professeurs du syndicat sont en grève illimitée depuis le 23 novembre et sont sans revenus depuis. Et ensuite, près de 400 cerfs ont été abattus dans des parcs près de Montréal. Ottawa avait autorisé la CEPAC à en abattre jusqu'à 500 en raison de leur surpopulation. Leur présence avait notamment augmenté de 120% en 2 ans au parc du Mont-Saint-Bruno. On continue sur CIBL avec l'entrevue de l'explorateur Nicolas Roux.
L'esprit de jungle, l'esprit de jungle. J'ai l'esprit de jungle, l'esprit de jungle. Commence à pousser, je me transforme en jaguar. C'est la loi du plus fort. Je lève mes mains dans la terre, mes pieds qui dansent dans les airs. Redonne-moi ce territoire perdu en moi. Reste-t-il un
Et c'était Esprit de jungle de André Simard. Et aujourd'hui, je reçois Nicolas Roux, qui a co-rédigé avec Guillaume Moreau le livre 234 jours, la première traversée nord-sud du Canada, qui retrace ce périple que vous avez fait tous les deux. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors, durant près de 8 mois, vous avez donc parcouru 7600 km équipés de skis de fond, de canots, de vélos, le tout dans des conditions, disons, les plus extrêmes du monde. Comment on en vient à se dire tout simplement qu'on va traverser le Canada du nord au sud?
Ça vient d'une autre expédition qu'on a faite en 2018. C'est une expédition où on traversait une partie du Nunavik, qui est un territoire inuit au Québec. Et on a rencontré un Inuk qui habite là-bas, donc un autochtone, qui nous a parlé de ce projet-là, qui avait porté, lui, pendant plusieurs années, qui était de traverser le Canada du nord au sud. C'est lui qui nous a donné l'idée, là, littéralement. En revenant chez nous à Québec, on s'est mis à faire des recherches pour essayer de voir pourquoi personne n'avait jamais essayé de faire ça. Puis on a réalisé pourquoi assez vite.
Et alors, pourquoi personne ne l'avait fait? J'imagine que c'est quelque chose de trop dur, complètement fou, de traverser ce pays de haut en bas?
C'est que oui, effectivement, premièrement, ça demande des ressources illimitées pratiquement, puisqu'il faut, on parle d'une distance de près de 8000 km. Donc, c'est impossible de faire ça en une seule saison. Donc là, quand il faut changer de saison, ça veut dire qu'il faut s'adapter aux transitions saisonnières et donc changer d'équipement, changer de façon de se déplacer. Et ça demande de faire du ski et du canot et du vélo et de la randonnée et ici et ça. Donc, il faut être comme bon dans plusieurs sports. Et qui dit transition entre les saisons dit beaucoup d'imprévisibilité. Hein? Quelle rivière va être dégelée à quelle date? Est-ce qu'on va passer dessus en ski ou en canot? Il y a personne qui le sait, il y a personne qui peut nous le dire parce qu'il y a personne qui va à ces endroits-là des fois. Donc, il faut être prêt à toute éventualité, donc traîner beaucoup d'équipement, prévoir un peu l'imprévisible et ça, ça coûte cher.
Est-ce que vous aviez une aide extérieure quand même pour regarder par exemple les GPS, voir l'état des territoires dans lesquels vous vous rendez ou pas du tout?
Oui, on avait de l'aide extérieure. On avait quelqu'un qui nous suivait là, au jour le jour avec notre tracé GPS. Mm-hmm. On avait des cartes aussi très précises, là, des classes canadiennes dans le haut Arctique. On avait une panoplie de ressources, mais à la fin de la journée, c'est nous qui prenons les décisions à partir de notre petit temps dans le nylon. Donc, au final, c'est très, très... On se sent assez seul, là, quand même.
Et donc, vous êtes parti de la station Eureka, tout au nord du Canada, traversant la banquise à ski, croisant régulièrement des ours polaires. Est-ce que le nord était la partie la plus dure du périple? Parce que quand on vous lit, on a quand même l'impression que vous souffrez le martyre.
C'est spécial parce que j'ai l'impression que l'expédition s'est déroulée pendant presque 200 jours dans le nord, sur les 234, parce que effectivement le Canada est un pays très nordique. C'est un pays, c'est le pays au monde qui a la plus longue distance nord-sud, et au moment du départ, on est environ à 1000 km du pôle nord, du pôle nord géographique. Donc, atteindre les premières routes où l'on peut dire, on arrive dans le sud du Canada, le sud développé, le sud occupé, le sud peuplé, ça a pris trois quarts de l'expédition. Donc, effectivement, tous nos défis ont été dans le nord. Toutes les parties difficiles se sont passées au nord du cercle polaire, puis en région subarctique.
Question simple, mais à quel point vous avez eu froid?
Pas si pire,
d'accord, OK.
Pas si pire dans le sens que je connais des gens qui ont fait des expéditions dans des contextes encore plus froids. Les contextes météo encore plus exigeants, mais c'est toujours une question de référence, c'est sûr. Nous, on a déjà passé des nuits à moins 40. Quand tu arrives à moins 30, ça sonne extrême, mais de moins 40 à moins 30, c'est plus facile à moins 30. c'est juste devenu de plus en plus facile puisqu'on est parti au cœur de l'hiver. Donc là, on faisait notre chemin vers le sud, mais les températures réchauffaient tout le temps, donc on avait l'impression d'être soulagé un peu au jour le jour.
Parce que vous parlez quand même de souffrance physique, des plaies sur tout votre corps qui s'ouvrent tandis que vous essayez d'avancer en ski sous moins 25 degrés. Est-ce que vous avez déjà pensé à abandonner ou ça n'a jamais été une option?
Ça n'a jamais été une option vraiment parce que, premièrement, on avait mis tout notre argent, toutes nos, notre vie un peu dans la préparation de cette expédition-là, donc on y tenait beaucoup, beaucoup. Mais cela dit, on n'est pas non plus zélés dans le sens qu'on s'il y avait eu vraiment un accident grave, on se serait fait évacuer. On aurait, si on avait vraiment manqué de bouffe, on se serait fait évacuer. Mais le problème, c'est que se faire évacuer en hélicoptère, c'est extrêmement complexe. Pas juste onéreux, là, c'est extrêmement logistiquement parfois impossible. Au Canada, il y a une seule hélicoptère qui peut venir nous chercher à ces latitudes-là, puis c'est une hélicoptère de l'armée canadienne. Et si elle est en réparation pendant une semaine, il n'y en a pas d'autres. L'hélicoptère n'a même pas le réservoir d'essence assez gros pour venir nous chercher directement. Il faut qu'elle se faire des dépôts dans le territoire, des dépôts d'essence. Donc, c'est extrêmement isolé. Puis ça, on le sent là, quand on est là-bas. On le sent que s'il arrive quelque chose, on est un peu par nous-mêmes. Là.
On parlait des ours polaires. À quel moment vous avez eu le plus peur durant cette expédition?
Il y a eu quelques moments où on s'est retrouvé vraiment pas loin des ours polaires, là, comme vraiment proche de la tente. Ça, c'est jamais des moments le fun. Cela dit, c'était pas la première fois que ça nous arrivait. Donc, on savait un peu comment réagir, mais même là, t'es tout le temps un peu sur... c'est un état physique. Ça te met dans un état physique qui est dur à décrire parce que dans aucune autre situation, on vit quelque chose comme ça. De peur imminente, là. De sentir que si tu fais pas quelque chose là, ben c'est peut-être la fin. Là. Puis fait que ça, c'est vraiment des rencontres trop proches avec des ours polaires, c'est vraiment désagréable. Sinon, avec d'autres gros animaux, là, comme des bœufs musqués non plus, c'est pas le fun. C'est beaucoup les rencontres animales. Parce que c'est là qu'on a moins de contrôle, en fait. Puis si tu es en train de surfer des immenses vagues sur un lac en canot, puis que l'eau est froide, puis que la berge, c'est des falaises de roches, mais au moins, tu peux tenir le coup, puis tu peux, tu as quand même une partie de contrôle là-dedans. Tu peux essayer de changer la façon dont tu paguais, tu peux te rapprocher du littoral, mais là, un ours polaire, là, c'est pas mal plus imprévisible.
Et justement, vous dites en parlant de ces ours que vous n'étiez plus au sommet de la chaîne alimentaire. Est-ce que c'est une leçon d'humilité que de se retrouver comme ça sur la banquise, entouré de ceux qui peuplent ces territoires?
C'est une immense leçon d'humilité, c'est sûr. Ben oui, c'est définitivement. C'est on n'a pas le choix de se sentir humble parce qu'au final, quand tu restes aussi longtemps ou de façon aussi prolongée dans la nature, il va y arriver des pépins. Il va arriver des rencontres avec des grands mammifères, c'est sûr, parce qu'il y en a. Donc, effectivement, quand on rencontre ces animaux-là ou quand on rencontre, juste quand on vit des grosses, grosses tempêtes qui nous empêchent de sortir de la tente ou quand on est confronté un peu à la force des éléments comme ça, effectivement, ça nous fait nous rappeler qu'on est bien juste des humains puis qu'au final, la nature fait vraiment ce qu'elle veut avec nous. Là. On est vraiment, vraiment tout petit. Là. On est bien équipé, mais on est résilient aussi, mais c'est ça, au final, ça prend pas grand-chose pour nous clouer au sol puis nous empêcher d'avancer. Là. Ça prend rien, en fait.
Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué durant ces 8 mois?
Le plus manqué, je dirais, c'est la paix d'esprit. Parce que autant c'est spécial, parce qu'autant on veut en refaire, autant moi j'ai tout le temps la tête là, dans des prochains projets, je suis tout le temps en train de vouloir repartir, mais c'est pas nécessairement parce que ça vient avec une paix d'esprit. C'est compliqué au jour le jour, dans le sens où c'est un grand paradoxe, parce que il y a tout le temps des problèmes à régler, des problèmes d'incertitude, des problèmes de bon, on va arriver à tel rivière aujourd'hui, de quoi ça va avoir l'air, est-ce qu'on va pouvoir passer par là. Mais ça, c'est l'essentiel de tes décisions, c'est l'essentiel de tes problèmes, parce que tout le reste n'existe plus. Tu n'as pas de facture à payer, tu n'as pas rien à t'occuper, les relations humaines que tu as, c'est juste avec les 4 mêmes personnes pendant 200 jours. Il n'y a pas de cellulaire, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas rien d'autre qu'une distraction qui t'empêche de focusser sur l'essentiel. Et ça fait extrêmement du bien parce que on vit dans une société où c'est dur de se concentrer.
Mais justement, j'allais vous demander si tous les problèmes rencontrés pendant l'expédition vous permettaient aujourd'hui de relativiser les problèmes du quotidien, mais en fait, c'est plus l'inverse. Vous avez eu moins de problèmes durant l'expédition que durant votre quotidien, en fait.
Ben, en fait, c'est ça, c'est paradoxal. C'est pas les mêmes problèmes. Les problèmes qu'on a en expédition, ils sont plus graves, mm-hmm. ils sont plus dangereux. Mais les problèmes qu'on a en ville, ils nous dépriment. Mm-hmm. Parce qu'ils nous empêchent de voir l'important souvent, puis ils nous empêchent de nous concentrer sur l'essentiel.
Alors que quand on voit un ours polaire, on se sent vivant et concentré, j'imagine.
Oui, concentré sur l'essentiel, effectivement. Mais oui, c'est ça qu'on recherche au final. Mm-hmm.
On parle beaucoup pour l'instant des difficultés que vous avez rencontrées, mais cette expédition, c'est aussi du plaisir. Comment on se sent dans ces paysages, dans ces territoires aussi immenses, aussi majestueux, comme vous les décrivez?
Privilégié. Mm-hmm. Privilégié, ouais, parce que dans ces régions-là, nordiques, il y a vraiment peu de gens qui ont la chance de s'y promener. Puis, pour plein de raisons, parce que c'est très, très coûteux, parce que c'est très loin, parce que si on veut pas y aller avec une agence, il faut y aller par soi-même. Et là, ça prend des années d'expérience, ça mm-hmm. prend un bon équipement, puis ça coûte des dizaines de milliers de dollars. Mm-hmm. Donc, ça revient au fait qu'il y a personne presque qui peut se payer ça, il y a personne qui a la chance d'y aller. Donc, c'est extrêmement privilégié. Et même parmi les gens qui ont la chance d'y aller, souvent, les gens, ils vont pendant une saison. Disons, ils vont faire un trip de canot au mois de juillet. C'est l'été. Mm-hmm. Là, nous autres, ce qu'on aime faire, c'est être là de façon prolongée. Donc, il faut changer de saison, il faut s'adapter. Donc, quand tu es là, puis que la banquise est en train de fondre, pendant que tu avances en tirant des canots, par exemple, il n'y a pas grand monde qui fait ça. C'est aller se planter là-bas volontairement au moment où la saison change et que c'est le plus compliqué d'avancer, ça intéresse pas grand monde. Mm-hmm. Donc, c'est effectivement vraiment un sentiment de privilège. Mm-hmm. Puis, ça nous habite au final, c'est que ça nous permet de voir des paysages qui sont très rares ou qui se déroulent pendant quelques semaines seulement durant l'année. Puis ça nous habite après pendant très, très, très longtemps.
Et si vous aviez un moment dont vous pourriez nous parler de cette expédition, un moment qui vous a particulièrement marqué, le plus beau?
Je dirais que c'est celui dont je viens de parler, là, mais je peux peut-être le décrire un peu plus en profondeur. Là. C'est qu'il y a un moment de l'expédition où on est arrivé dans un village en ski, mm-hmm. et il fallait repartir en canot parce qu'on arrivait de 2 mois de ski et là, on s'en allait devoir remonter des rivières dans le continent et donc quitter la banquise côtière finalement pour mm-hmm. Entrer à l'intérieur des terres. Et on avait quand même environ 300 kilomètres à faire sur 200 kilomètres à faire sur la banquise en tirant nos canots, puisque on devait encore s'en servir comme des traîneaux, en fait. Puis on les tirait en marchant sur la banquise. Mais si la banquise se cassait, on pouvait sauter dans les canots et se mettre à pagayer. Donc, c'était super amphibien comme moment de l'expédition. Ça a duré 2 semaines et ça nous a donné la chance de voir des paysages où la banquise était bicolore, bleu, turquoise, blanche, différentes teintes de gris, de blanc, de pastel. C'était exceptionnel. Mm-hmm. Quand la vue se dégageait, on voyait juste des piscines d'eau douce sur de la banquise blanche à perte de vue, avec des rivières qui percolent à travers ça, sur la banquise, comme des rivières sur un glacier. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. Mm-hmm.
Et justement, vous en ressortez un récit de voyage pour tous ceux qui veulent en apprendre plus. Est-ce que vous saviez déjà, avant de partir, que vous alliez écrire ce livre?
On avait une vague idée du fait qu'on voulait écrire un livre, mais on savait pas encore sous quelle forme. On savait pas encore si ça allait être une plaquette ou un livre plus volumineux. On savait pas si ça serait un livre de photos ou si c'était juste des réflexions. Finalement, on a opté pour un bon vieux livre classique de récits d'aventure chronologique, puis avec des carnets photos, des cartes. Puis ça, je pense que c'est une formule gagnante. Mmh. Que les gens ont l'impression. Je pense que les échos que j'ai sont très, très positifs. C'est ça. Et on est très contents. On est très contents d'avoir pu mettre par écrit ces ressentis-là, ces émotions-là, des émotions fortes. Puis j'espère que ça va inspirer des gens à vivre leur petite aventure.
Mmh. Et quel a été le processus d'écriture pour ce livre? Est-ce que vous avez pu prendre des notes durant le voyage?
Mmh. Oui, on a pris beaucoup de notes. En réalité, pas moi, c'était vraiment mon ami Guillaume et mon ami Jacob qui ont pris les notes le plus. Mais ça a été essentiel. Après, moi, je les ai mis sur un fichier Word, là, je les ai retranscrits. Après ça, on a fait des plans et des plans et des plans détaillés de qu'est-ce qu'on voulait dire, des chapitres, etc. Puis Si on a fait un travail en collégialité pour voir comment nos souvenirs étaient différenciés pour l'un et pour l'autre, puis ça a donné des beaux résultats. Un peu de confrontation sur certains souvenirs ou la manière dont certaines choses se sont passées. Et là, c'est surtout moi qui l'ai écrit. Guillaume a fait beaucoup les relectures, a écrit des passages aussi. Puis, c'est ça. Ça a pris environ, disons, de façon active à temps plein, ça a pris environ 4-5 mois.
OK, très bien. Et je voulais mentionner aussi qu'à côté de ça, vous êtes enseignant en histoire-géographie au secondaire. Ça fait quoi de passer d'une salle de classe à la nature la plus sauvage? Est-ce que la transition est rude?
C'est plus facile être en nature sauvage.
C'est ce que j'allais vous demander, oui.
Ouais. Mais non, mais moi j'enseigne dans un milieu, encore une fois, je suis privilégié. Là, ouais. C'est un milieu très, très, très favorisé, puis... Non, c'est j'adore ce que je fais à l'école, j'adore ce que je fais en expédition. Le plus dur, en fait, je dirais, c'est de faire cohabiter les deux d'une manière cohérente, parce que sinon, ça prend beaucoup trop de temps, dans le sens où là, on fait une expédition, là pour la première fois, on a écrit un livre, puis on a fait un film. Puis les deux sont des beaux succès. On a eu une maison d'édition super, super agréable avec laquelle travailler. Puis notre livre, notre film a été sélectionné dans plein de festivals. Et puis là, c'est la tournée mondiale du festival de films de montagne de Banff. Donc ça, c'est, je vous laisse imaginer la quantité de courriels, puis la quantité de choses à gérer, de versions à regarder. Tu sais, c'est comme interminable. C'est infini, au final. Le temps qu'on peut mettre dans les projets qui entourent une expédition comme ça, parce que les gens veulent savoir ce qui s'est passé, puis les gens veulent voir les photos, puis blablabla. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de temps. Il faut choisir. C'est beaucoup d'apprentissage parce que je pourrais pas le refaire comme je l'ai fait dans la dernière année. C'était trop de temps. C'est trop demandant.
En tout cas, merci beaucoup Nicolas d'être venu nous parler de cette expédition. Pour tous ceux et celles que ça intéresse, donc votre livre s'appelle 234 jours. Il est paru aux éditions Cardinal et puis il est disponible dans toutes les librairies. Merci beaucoup et puis à bientôt peut-être pour parler de votre prochaine expédition.
Merci pour la discussion. Bonne journée.
Merci, au revoir. On continue avec la chronique d'actualité montréalaise de Quentin Dufrane. On y est.
Les générations se parlent, s'obstinent, se surprennent à l'émission Trait d'Union. Des humoristes, des réguliers, des invités, des amis, encore des amis se joignent et sont annoncés à chaque mercredi sur nos réseaux. On parle de tous les vendredis à l'émission Trait d'Union à 14h sur les ondes de CIBL 101,5.
Ici Yvan Bugeaud de l'émission Folie douce. Expert en santé mentale depuis 1991, Folie douce repousse les préjugés et tabous. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques, toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Folie douce est le rendez-vous radiophonique révélant le vrai visage de la santé mentale. Lundi matin 11h et en rediffusion mercredi matin 8h à CIBL 101.5.
Ici Maude Desbois. À l'effet durable, on parle d'environnement, de défis de société et de développement durable en s'appuyant sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h sur les ondes de CIBL 101.5.
La girafe en bleuse, le magazine radio de la scène musicale québécoise en deux faces, comme les bons vieux vinyles. La face A, c'est l'artiste et sa démarche. La face B, sa musique, ses textes et ses chansons. Jean Gagnon Doré vous convie sans presse pour suivre l'artiste dans tous les sillons de sa création. La girafe en bleuse, les vendredis 13h, rediffusion dimanche 10h. CIBL, au creux du sillon.
CIBL 105, Montréal.
Et je reçois Quentin Dufrane pour sa chronique des actus montréalaises. Bonjour Quentin.
Bonjour Charline.
Et aujourd'hui, je crois qu'on parle d'un sujet qu'on connaît assez bien dans cette chronique.
Oui, effectivement, je vous ai déjà parlé il y a quelques semaines du REM, au réseau express métropolitain, avec ses nombreuses pannes qui avaient entaché les premiers mois en fait de service du train léger. Mais j'avais aussi parlé du manque de communication qui avait été vivement déploré par de nombreux usagers. Eh bien, il semblerait que la CDPQ Infra souhaite terminer cette première année sur une note plutôt positive.
Eh ben, ça semble être une bonne idée. Et comment ils vont faire après tous ces problèmes ?
Alors, la CDPQ Infra, qui est à la tête du REM, donc, a déclaré que d'ici quelques semaines, bien, les usagers du réseau express métropolitain, le REM, pourraient recevoir une alerte texte pour les aviser d'une interruption de service. Le président directeur général de la CDPQ Infra, Jean-Marc Arbaud, a reconnu d'ailleurs vendredi dernier, pendant une conférence de presse, que même si cela arrive très rarement, bien c'est rassurant de savoir s'il y a un problème. Même si, en effet, comme je le disais plus tôt, son équipe avait été critiquée pour ce manque de communication lors des périodes d'interruption de service, car il faut savoir que pour le moment, bien, le REM utilise uniquement son site internet ou la plateforme Twitter X pour communiquer avec ses utilisateurs.
Et puis c'est aussi le premier hiver pour notre train léger, donc on peut peut-être trouver des excuses un peu liées au lancement.
Oui, ben, c'est le premier hiver pour le REM, alors vu les quelques ratés de ses premiers mois de service, on pourrait craindre bien, pour les jours de tempête hivernale pardon, et de verglas. Mais bon, la CDPQ Infra semble avoir bien anticipé l'arrivée des premiers flocons et la chute des températures. Bon, elle a d'ailleurs profité à la conférence de presse de la semaine dernière pour présenter son plan hivernal. Bon, en réalité, le REM n'en est pas vraiment à son premier hiver en soi. Plusieurs tests ont été effectués au cours des dernières années en fait, pour s'assurer que le train léger bien, tienne le choc de l'hiver québécois.
Et c'est quel genre de test que le REM a dû passer durant les précédents hivers ?
Bah alors d'abord, le train léger, il a été soumis à des tests statiques dans des conditions météorologiques hivernales. Bon, pour ça, il a fait un petit séjour de novembre à décembre 2020 dans une des meilleures chambres climatiques au monde, et pas n'importe où, à Vienne en Autriche. Bon, l'objectif de ces tests était de s'assurer bien que le confort des futurs voyageurs serait optimal et ce peu importe bien les conditions météorologiques, mais aussi que tous les types de conditions climatiques bien n'impacteront pas les fonctions critiques du train. Bon, après les tests statiques, le REM il est ensuite passé au travers de tests dynamiques et cette fois en conditions réelles. Donc pendant les hivers de 2022 et puis l'hiver dernier, les équipes du REM l'ont mis en marche en fait pour commencer sur un court segment extérieur de 3,5 km et ensuite sur l'ensemble du tronçon de la rive sud.
Et alors qu'est-ce qui est censé rendre le REM résistant à notre hiver glacial ?
Bon, il faut savoir qu'il a été équipé, tout a été pensé pour ça. Hein. Il y a du double vitrage pour une isolation thermique renforcée, l'utilisation de freins hivernaux, même le pare-brise avant est chauffé pour éviter l'accumulation de neige et de glace sur le vitrage. On a des seuils de porte et des planchers chauffants, on a même des grattoirs à glace sur certains pantographes, donc c'est ces systèmes qui permettent d'alimenter le train en électricité. Et pour se tenir chaud, en attendant l'arrivée du train, bien les stations ont été équipées de portes palières, donc ça permet en fait de minimiser la perte de chaleur entre les stations et la voiture. Donc maintenant, reste à voir si l'équipement d'hiver bien, permettra au REM de ne pas attraper froid.
Et de ne pas trop tomber en panne aussi, c'est important. Et après les transports, tu nous parles maintenant de santé publique, alors qu'on commémorait le 1er décembre dernier la journée internationale de lutte contre le VIH, le sida.
Oui, et à Montréal, donc plusieurs dizaines de personnes s'étaient donné rendez-vous, comme à chaque année, au Parc de l'Espoir pour une vigile en hommage aux personnes emportées par ce virus. Bon, certaines personnes et acteurs de la lutte contre le VIH-Sida ont pris la parole à tour de rôle pour dénoncer notamment la criminalisation pardon, des communautés marginalisées, hautement impactées, mais aussi l'accès inégal au traitement. Car oui, bien que les années sombres de la crise du VIH-Sida, les années 90, soient maintenant derrière nous, ben, la bataille est encore loin d'être gagnée.
Oui, en fait, donc des données accablantes ont été dévoilées par la santé publique de Montréal quant au nombre de nouveaux cas dans la métropole, c'est ça ?
Oui, Charline, alors qu'on rendait hommage bien aux victimes et aux personnes touchées de près ou de loin par le VIH-Sida, mais les responsables de la santé publique de Montréal ont publié des nouvelles données à jour et elles affirment notamment avoir enregistré en 2022 le plus grand nombre de nouveaux diagnostic de VIH en 10 ans dans la ville de Montréal et sa banlieue. Au total, ça représente quoi ? Ce sont 310 nouveaux cas de VIH qui ont été déclarés pour la région de Montréal l'année dernière, contre 141 en 2021, 116 en 2020 et 130 en 2019, donc bien avant la pandémie. Selon la santé publique de Montréal, cette hausse des cas déclarés en 2022 bien, pourrait être un signe du rattrapage en fait, des habitudes de dépistage des gens qui avaient été fortement chamboulés par la pandémie. Il faut savoir que pendant la pandémie, bien, beaucoup de ressources en santé avaient été réorientées en fait, pour la lutte contre la Covid-19. Et 158 des nouveaux diagnostics de VIH se retrouvaient parmi les personnes originaires d'un pays où le VIH était déjà présent. Mais aussi, l'année dernière, 108 nouveaux diagnostics de VIH étaient parmi les hommes gays, bisexuels et hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Bon, au total, et selon Santé publique Montréal, bien, la ville de Montréal et sa banlieue insulaire représenteraient quand même 74% des diagnostics de VIH au Québec l'an passé.
Donc près de 3/4 à Montréal. Comment la ville elle va lutter pour faire face à cette hausse de nouveaux cas ?
Bon, alors, le 1er décembre 2017, en fait, la mairesse de la ville de Montréal, Valérie Plante, avait signé la déclaration de Paris. Donc, qu'est-ce que ça a fait, ça? Ça fait que Montréal est devenue la première ville canadienne, en fait, à rejoindre le réseau des municipalités déterminées à éradiquer l'épidémie de sida d'ici 2030. Donc, l'initiative Montréal sans sida en est née. Et donc, et c'est doté d'ailleurs d'une coprésidence partagée par la ville de Montréal, par la Direction régionale de la santé publique et par le milieu communautaire. Mais bon, depuis 2017, le communautaire a fait que de dénoncer le manque de leadership de la ville de Montréal dans ce dossier et a d'ailleurs pointé du doigt le refus par la ville de Montréal de signer les plus récents objectifs de l'ONU SIDA. Bon, ça a d'ailleurs poussé le communautaire à claquer la porte de l'initiative l'hiver dernier. De son côté, la direction générale de la santé publique a effectué un exercice de priorisation à l'automne 2022 pour, je cite, « cibler les actions prioritaires à mettre de l'avant ».
Question importante, c'est quoi les meilleurs moyens pour se protéger du VIH en 2023, Quentin ?
Bien au-delà du célèbre et indétrônable condom, la santé publique rappelle qu'il est important de se faire dépister régulièrement dans les différents centres de dépistage, et ce gratuitement. Il est possible de se faire dépister gratuitement dans les CLSC, les CIDEP, et aussi de nombreuses cliniques bien privées proposent aussi des services de dépistage.
Payant, j'imagine.
Oui.
Côté privé.
Et bien que l'on n'ait toujours pas de vaccin contre le VIH, bien il existe bel et bien un traitement qui empêche d'être infecté par le virus en cas d'exposition. Et il s'agit de la prophylaxie pré-exposition, ou PrEP, qui protège au-delà de 90% quand même d'être infecté par le VIH en cas d'exposition.
D'accord, donc c'est un moyen quand même assez efficace.
Oui, mais malheureusement, ce n'est pas son efficacité qui pose problème, mais bien son accessibilité, car il faut compter en moyenne une centaine de dollars par mois pour les personnes qui la prennent quotidiennement et qui ont une assurance médicaments et une carte de la RAMQ, mais ça peut aller jusqu'à plus de 250 dollars mensuellement pour des personnes sans papier ou demandeuses d'asile, par exemple. Donc, il existe aussi un traitement après avoir été à risque d'être en contact avec le virus. Il s'agit de la PPE pour prophylaxie post-exposition et qui doit être prise dans les 72 heures suivant une exposition à risque. Cette pilule-là, elle est disponible dans la plupart des salles d'urgence des hôpitaux, les CLSC et les autres centres de services de santé.
Il y a un slogan qui a été amplement relayé cette année encore et c'est le fameux I égale I.
Oui,
c'est
je pense qu'on ne le dira jamais assez. Oui, I égale I pour indétectable égale intransmissible, car un traitement existe aussi pour les personnes vivant avec le VIH et il permet la diminution de la charge virale du VIH à des seuils le rendant indétectable. Et donc, si le virus est indétectable, eh bien, il n'est pas transmissible. Donc, une personne séropositive, qui est donc infectée par le VIH et qui prend son traitement et voit sa charge virale indétectable, eh bien, peut donc avoir des rapports sexuels sans protection avec son ou ses partenaires, sans risque de transmettre le virus, et elle peut même avoir des enfants sans aucune crainte. Mais bon, bien qu'il soit désormais possible de vieillir et de vivre normalement quand on est sous traitement, un des enjeux les plus difficiles à ce jour pour les personnes vivant avec le VIH reste la stigmatisation qu'ils doivent combattre au quotidien. Car il faut savoir qu'encore trop de personnes séropositives se voient refuser un emploi, se sentent isolées ou encore discriminées dans leurs relations interpersonnelles. Bon alors, si autour d'un verre, un de vos dates vous explique avec courage qu'il est séropositif et que sa charge virale est indétectable, et donc pas de panique. C'est d'ailleurs sûrement une personne très résiliente qui est assise en face de vous.
Très bien. Merci pour ce message, Quentin. Et pour finir, tu vas nous parler d'une famille de Rivière-des-Prairies qui a récolté plusieurs centaines de cadeaux de Noël pour les enfants hospitalisés de Montréal.
Oui, ce sont pas moins de 472 jouets qu'a récolté Angelica Collins et sa famille pour les amener ensuite à l'hôpital pour enfants de Montréal. C'est la deuxième année que cette famille au destin tragique effectue cette collecte de cadeaux à destination des tout-petits qui passeront Noël à l'hôpital.
Tu parles de destin tragique, quelle est la raison derrière cette initiative ?
Eh bien, par cette collecte, Angelica Collins et sa famille ils veulent donner le sourire aux enfants hospitalisés et qui vont passer Noël à l'hôpital. Mais la famille souhaite avant tout rendre hommage à leur fils Kilo, qui est décédé en août 2022 après s'être longuement battu contre la maladie. Il avait d'abord reçu un diagnostic de cancer du sang juvénile rare, connu sous le nom aussi de JMM. Puis il avait reçu une greffe de cellules souches, mais malheureusement des complications l'ont emporté par la suite. Donc dans tout ça, bien le petit Kilo a passé une grande partie de sa vie à l'hôpital et il avait même fêté d'ailleurs son premier anniversaire le 10 décembre 2022. Et de ces longs moments à l'hôpital, de la bienveillance du personnel soignant, bien les parents de Kilo n'ont rien oublié et c'est donc pour honorer la mémoire de leur fils, mais aussi pour redonner à l'hôpital et aux enfants qu'ils se donnent cette mission.
Très bien, merci beaucoup Quentin pour ces actus montréalaises. On se retrouve en 2024
oui.
Pour que tu nous donnes un peu les actus qui se sont passées d'ici là. Merci beaucoup Quentin.
Merci
Charline. À bientôt. On continue avec la chronique philosophie de Michel Binette. C'était Motel Gédéon de Bernary et puis j'ai le plaisir de recevoir le philosophe Michel Binette pour sa chronique mensuelle. Bonjour Michel.
Bonjour, merci.
Et votre chronique d'aujourd'hui tombe à pic puisque vous venez nous parler de fin d'année.
Ouais.
C'est le moment des bilans. Qu'est-ce qu'on peut apprendre pardon, philosophiquement de notre année?
Oui, ben c'est une bonne question parce qu'en effet, en cette fin d'année et le début qui suit, en fait, on se questionne, mais qu'est-ce que j'ai pu apprendre de mon année? Qu'est-ce que je vais donner à... Qu'est-ce que je vais faire de la prochaine année? Donc, de se donner un moment pour réfléchir, pour faire une espèce d'introspection, pour savoir où on en est, ben c'est... En philosophie, ben, c'est important, surtout en philosophie, si on veut l'appliquer et vivre de façon philosophique. Ben, qu'est-ce que j'ai appris de mon année? Mm-hmm. C'est sûr que ça implique de ce que j'ai fait des résolutions en début d'année prochaine, en début d'année passée, pardon. Mm-hmm. C'est-à-dire, si je passe les années une après l'autre sans vraiment réfléchir, ben, c'est comme une ligne continue. Par contre, si on voit le temps comme des cycles, l'anneau, hein, l'année vient du mot anneau, donc on sent cette espèce de cycle. Donc, on voit à chaque année, on fait un nouveau cycle. Donc, qu'est-ce que je peux construire sur ce que j'ai déjà construit avant? Donc, qu'est-ce que j'ai fait de mon année? Qu'est-ce que j'ai appris de mon année? Qu'est-ce que j'ai appris de mes expériences, surtout vécues? C'est sûr qu'il y a un aspect, comment je dirais, extérieur. Par exemple, est-ce que j'ai acheté une nouvelle voiture, une nouvelle maison, un nouveau travail? C'est bien, mais évidemment, en philosophie, c'est qu'est-ce qui... en soi, on a compris, en fait, sur soi-même et sur la vie, en fait.
Et ce passage à la nouvelle année, c'est une occasion parfaite pour faire ce genre d'introspection?
Exactement. Donc, c'est de réfléchir, bon, qu'est-ce qui dépend de moi à chaque année? C'est-à-dire, parce que tout ce qui est extérieur, tout ce qu'on peut acquérir en tant que possession, mais, tu sais, l'économie peut tomber du jour au lendemain, on peut tout perdre notre maison, on peut tout perdre notre voiture, là, même... donc, je dis pas que c'est à négliger, au contraire, mais c'est plutôt comprendre, mais où est mon réel pouvoir? Mm-hmm. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux vraiment faire de mon existence, c'est-à-dire de construire en moi quelque chose qui est stable au-delà des circonstances extérieures.
Mm-hmm. Et alors, comment vivre la fin d'année avec philosophie?
Bien, c'est une bonne question parce que, justement, on veut ne pas perdre le centre, c'est-à-dire on veut vivre, passer cette étape de façon plus, à la fois comme un rythme où on prend effectivement les choses sous un autre tempo, si on peut dire. On est souvent en congé, en vacances, ou au moins le rythme change au niveau du travail. Donc, c'est un bon moment pour faire une espèce d'introspection intérieure, c'est-à-dire de prendre le temps de réfléchir, de s'observer, de voir qu'est-ce que j'ai de plus que l'année passée, pas en termes de possession, évidemment, mais en termes de, par exemple, de vertu ou de capacité ou de qualité intérieure que j'ai pu développer au cours de l'année.
Vous parliez des résolutions à venir pour la prochaine année. Est-ce que la philosophie peut nous aider à maintenir nos résolutions, chose qui est assez rare, j'ai l'impression?
Ouais. Effectivement, c'est dur. Souvent, on entend plein de bonnes résolutions, mais je vais me remettre en forme, je vais faire attention à ma santé, je vais économiser pour la prochaine année. Et après quelques mois, on le voit dans les salles de gym. Des fois, au début janvier, les gyms sont pleins. Après février, mars, on commence à voir que finalement, il y a moins de personnes. Mais en fait, il faut réfléchir vraiment au pourquoi, en fait. Pourquoi je veux prendre telle ou telle résolution? Et ensuite, le comment, si on veut, devient une espèce de véhicule. Si, par exemple, je veux développer, j'aimerais être plus discipliné en général, je vais me pratiquer en allant au gym. Donc, mais c'est pas juste la finalité d'être en forme physiquement, mais c'est de pratiquer une discipline. Mais ça peut être aussi, je vais apprendre le piano, je vais apprendre quelque chose de nouveau, et puis je vais me travailler ou renforcer des qualités qui vont m'être utiles, peu importe le contexte, en fait. Donc, c'est parce qu'on a tous des rêves, des aspirations sur une vie. Mettons, on prend un grand cycle d'une vie. On espère avoir accompli certaines choses dans notre vie. Et donc, chaque année doit être une espèce de brique qui sert à construire cet édifice, en fait, de notre vie, en fait.
Et elles sont importantes, ces résolutions, même si elles ne sont pas forcément tenues, comme on disait?
L'important, c'est, d'avoir des résolutions, mais c'est surtout d'apprendre. Mettons que je n'ai pas réussi à la tenir, mais je saurais pourquoi je n'ai pas réussi à la tenir. Et donc là, c'est intéressant parce que je peux apprendre. C'est pas tomber dans une espèce de jugement, des fois négatif, « Ah, j'ai pas réussi » ou « Je suis pas bon » ou « Je sais pas quoi ». C'est plutôt « Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai pas réussi ?» Et là, c'est intéressant parce que je peux observer j'ai peut-être un peu de paresse, un peu de laisser-aller ou plutôt je me suis trompé des fois même d'objectif. Donc peut-être ça me permet d'apprendre. Je vais renforcer ça l'année prochaine à mon bilan de fin d'année. Je dis cette année, j'avais ça comme résolution. J'ai pas réussi, mais je sais pourquoi. Donc, ça me permet le cycle suivant, mais je vais renforcer ça. Et peut-être que ce cycle suivant-là, je n'y arriverai pas non plus, mais au moins, je vais faire un petit... Ça va refaire un petit cycle de plus, et là, je vois, bien, OK, ben peut-être l'objectif était un peu élevé, je vais pouvoir revoir différemment. Et au contraire, ça peut être, j'ai réussi à renforcer la discipline, par exemple, j'aime bien nommer cette qualité-là, ben, c'était une qualité importante, mais ça peut être aussi, je peux être plus généreux, plus courageux, je vais développer la patience, peu importe la qualité ou la vertu que je vais développer. Mais au moins, si je ne réussis pas, je réussis à extraire quelque chose de cette expérience.
C'est ça, donc les résolutions, ça sert à apprendre pourquoi on ne les a pas respectées et on grandit de
ce constat-là. Exactement. Ouais. Si on ne réussit pas à les maintenir, mais on peut réussir aussi à les maintenir. Mm-hmm. Dans les deux cas, on va apprendre. Si j'ai réussi, je vais savoir aussi pourquoi que j'ai réussi.
Et alors, qu'est-ce que les anciennes traditions philosophiques peuvent nous apprendre sur les cycles de la vie?
Oui, ben c'est intéressant parce qu'on étudie beaucoup les anciennes traditions, les anciennes philosophies, d'Orient comme d'Occident. Les anciens, ils savaient très bien intégrer cette idée de cycle dans un plus grand tout. Ce qu'on peut avoir tendance à oublier aujourd'hui, on voit le temps comme quelque chose de linéaire. Oui, il y a des mois, hein, on passe chez des années, mais en fait, pour les anciennes traditions, c'était vraiment cette idée de cycle. Et c'était comme un arbre qui pousse à l'extérieur. C'est comme il crée des anneaux, mais il construit toujours sur ce qui était construit avant lui. Donc, il ne repart pas de zéro à chaque année, comme si ça serait linéaire. Mais c'est plutôt consolider ce qui a été acquis, ce qui a été construit, ce qui a été renforcé, puis construire sur ça. Et dans certaines traditions, il l'illustrait, par exemple, en construisant... Je prends les Mayas ou les Aztèques, là, je ne me souviens plus lesquels, mais construisaient des pyramides par-dessus l'ancienne pyramide. Mm-hmm. Et ce n'était pas nécessairement pour avoir une plus grosse pyramide, c'était symbolique à la fois aussi pour montrer qu'on construit sur ce qui est déjà établi, mm-hmm. sur ce qui est déjà solide. Donc, à notre vie personnelle, il faut un peu suivre cette image, en fait, qui est inspirée de la nature, pour voir, est-ce que j'ai appris quelque chose? Est-ce que je peux renforcer ça? Et puis, que ce qui est moins important, je laisse aller un peu comme les arbres où ils laissent tomber les feuilles pour reconstruire quelque chose de nouveau, pour renaître, en fait, à quelque chose de nouveau.
Et si on calque ces anciennes traditions, ce modèle sur le contexte mondial actuel, qu'est-ce qu'on peut espérer? Qu'est-ce que ça donne?
En fait, c'est pas évident. Aujourd'hui, on a une vision différente de l'être humain ou de la vie, qui est plus une vision, plus linéaire, comme si on pense que ce qui est fait maintenant est mieux que ce qui était fait hier. Donc, on rejette un peu le passé. Donc, il faut comme redécouvrir, je pense, une vision... quelle est notre place? Quelle est la place de l'être humain dans l'univers, dans la vie, sur cette planète, en fait? Quel est notre rôle à jouer? Donc, c'est une grande question, mais aussi, ça revient, mais quel est mon rôle en tant qu'individu, en tant qu'acteur dans cette société, dans cette culture? Donc, qu'est-ce que je peux contribuer? À quoi je peux contribuer? Mm-hmm. Donc, c'est sûr que les anciennes philosophies peuvent nous enseigner énormément, parce que c'est des traditions qui ont pu, traverser les âges et traverser des fois des centaines d'années, même des millénaires, et sont toujours actuels aujourd'hui.
Donc, si on en revient au mois de janvier, c'est un mois qui doit son nom au dieu romain Janus, c'est ça?
Ouais.
C'est qui ce dieu? Qu'est-ce qu'il a de particulier?
Oui, c'est intéressant. Ça illustre aussi cette idée que les anciennes traditions avaient cette vision où ils représentaient les principes et les lois de la nature avec des symboles. Donc, ce dieu, en fait, qui s'appelait Janus, donc qui est devenu Janvier, a cette caractéristique d'avoir un double visage. C'est-à-dire qu'il y a un visage comme derrière la tête et un à l'avant. Donc, il y en a un qui est un visage jeune et un visage vieux. Mais l'interprétation peut être dans deux sens, où le vieux visage regarde soit vers le futur, c'est-à-dire vers où on s'en va, et le jeune vers le passé. Mais il peut être vu à l'envers aussi, c'est-à-dire ce qui est vieux regarde vers le passé et le jeune vers l'avenir. Donc, c'est une vision autre parce qu'elle nous permet de voir que la jeunesse, c'est plus quelque chose d'intérieur parce que ce qui est vieux, c'est ce qui est usé, par exemple, nos vieilles habitudes, nos vieilles façons de faire, nos vieux préjugés. Donc, on laisse derrière et on regarde vers l'avant, on dépouille un peu de nos idées préconçues, on se dépouille de ce qui est lourd, en fait, et on laisse derrière. Donc, pour toujours avoir une vision rajeunir de la vie et rester comme une espèce conserver plutôt une humilité face que on a toujours quelque chose à apprendre de la vie, quelque chose à comprendre qui est en face de nous. Alors.
Et donc, c'est par hasard si on fait nos résolutions en janvier, le mois de Janus. Tout était pensé, en fait.
Ben, en fait, c'est pas un hasard, en effet, parce que c'est, en fait, il y a un lien aussi, évidemment, au solstice, c'est-à-dire le 21 décembre, où on le vit beaucoup en Amérique du Nord, on voit que les journées sont très courtes, ben, en Amérique, tout l'hémisphère nord, pardon, où les journées raccourcissent en décembre, et puis là, la lumière revient, donc il y a cette cycle qui nous lie au cycle du cosmos, en fait, de notre planète, parce que la lumière diminue, et donc ensuite la lumière revient, c'est-à-dire c'est comme un renouveau, le retour de la lumière, pour le dire un peu de façon symbolique, de la lumière de la connaissance, de la jeunesse, de la renaissance qui arrive avec le printemps ensuite, qui renaît, tout revit.
Et puis il y a le fait aussi que le mot année, vous le disiez tout à l'heure, a la même racine que le mot anneau.
Exactement, donc c'est vraiment cet anneau qui fait le tour, hein, comme même un anneau, par exemple pour les bagues, cet annulaire, c'est-à-dire cette vision circulaire, mais aussi on peut le voir comme une spirale, c'est-à-dire une spirale qui va du plus loin vers, qui se rapproche d'un centre, tout en s'élevant, c'est-à-dire en allant vers nous-mêmes, en fait. Mm-hmm.
On parle de cette nouvelle année, le contexte, il n'est pas évident au niveau social, économique. Beaucoup de signaux sont assez alertants pour beaucoup de personnes. Quelle attitude philosophique adopter par rapport à cette année qui peut nous inquiéter?
Oui, ben c'est des bonnes questions parce qu'en effet, qu'est-ce qu'on peut, en voyant le contexte mondial aujourd'hui, contexte social, économique, ben, qu'est-ce qu'on peut espérer? Ben, c'est pas évident, au niveau philosophique, de prévoir un peu ce qui va se passer, mais ce qui est important, et c'est de, je pense, se rapporter à qu'est-ce que nous, on peut faire, quel est notre, entre guillemets, pouvoir comme être humain. Est-ce que j'ai un pouvoir personnel sur le contexte mondial? C'est limité, on s'entend. Si je peux pas, même si on est pour la paix, je peux pas aller dire, ben, soyez en paix, tout va bien aller, non? Mais je peux commencer par moi-même, c'est-à-dire est-ce que je peux moi-même être un vecteur de paix dans ma vie quotidienne, c'est-à-dire de mettre de côté des fois résoudre des conflits qu'on peut avoir avec des amis, la famille, des choses qu'on n'ose pas aborder mais qu'il faut dénouer. On sait qu'il y a une tension sur tel sujet, ben on essaie de l'aborder pour amener en même temps une occasion de régler les conflits de façon intelligente. Parce qu'aujourd'hui, on voit quoi un peu dans le monde? C'est comme si les conflits doivent se résoudre par la force. C'est pas ça qu'on veut comme être humain, c'est-à-dire on veut que ce soit par intelligence, c'est-à-dire en incluant les autres, en incluant tout le monde, sachant que chacun a leur vision des choses différentes. Donc c'est très dur à concilier, mais c'est justement ça le défi.
Donc,
de l'intelligence.
À l'échelle individuelle, agir contrairement à ce qui nous inquiète au niveau mondial.
Exact. Ben c'est agir vers ce qui nous inspire. Si on veut la paix, si on veut un monde nouveau et meilleur, qu'il soit plus inclusif, plus généreux, ben, il faut l'être nous-mêmes, il faut travailler à l'être. Parce que c'est facile de voir à l'extérieur ce qui marche pas et dire aux autres ou au gouvernement, ben, faites ci, faites ça. Mais on peut nous-mêmes s'observer, ben, qu'est-ce que moi je peux faire comme concrètement pour faire un peu de paix d'abord en moi-même et autour de moi.
Mm-hmm. Merci Michel pour tous ces conseils. Bah, on vous souhaite du coup une bonne année.
Merci.
Et puis on vous reverra en 2024 pour de nouveaux conseils philosophiques.
Ben, merci beaucoup, en espérant que ça amène un petit éclairage pour tous à réfléchir et à se donner des résolutions pour cette nouvelle année et faire le bon bilan ensuite pour avancer vers le meilleur de soi.
On retient l'utilité des résolutions et on essaiera de les tenir. Merci beaucoup.
Merci
Michel.
Beaucoup.
Restez avec nous pour la clôture de l'émission et le programme de demain.
Bien sûr, faut reconnaître que le climat s'emballe. Bien sûr, que de tels événements, ce n'est pas normal. Bien sûr, face à la crise, nos forces sont inégales. Bien sûr, à la longue, ça joue sur le moral. Bien sûr, on va nous dire que c'est perdu d'avance. Bien sûr, nous n'avons pas la moindre des chances. Bien sûr, d'autres voudront nous réduire au silence. Bien sûr, et nous renommer avec arrogance, nous mettre une étiquette. Bien sûr, de bohème, de poète. Oh, bien sûr, notre façon est un peu radicale. Bien sûr, c'est qu'on s'attaque aux racines du mal. Bien sûr, on nous dira soyez plus raisonnables. Bien sûr, mais de le faire serait irresponsable. Car devant la débâcle, bien sûr, il n'y aura pas de miracle. Oh, et malgré les tempêtes, oh, malgré les vents contraires, oh, avant qu'on nous arrête, oh, avant qu'on nous fasse taire. Ce qu'on a à faire. Oh, bien sûr, on devra beaucoup compter sur nous-mêmes, bien sûr, et rassembler le plus de gens qu'on aime, bien sûr, s'adapter à de nouveaux phénomènes, bien sûr, et surmonter un à un les problèmes, bien sûr. On nous trouvera le long des barricades, bien sûr, du monde entier nous serons camarades, bien sûr, si on veut le sauver de la noyade, bien sûr, ce ne sera pas toujours une balade. Dans cet état d'urgence, bien sûr, approche l'échéance. Oh, et malgré les tempêtes, oh, malgré les vents contraires, oh, avant qu'on nous arrête, oh, avant qu'on nous fasse taire. Faire ce qu'on a à faire. Oh, avant qu'on nous arrête. Oh, avant qu'on nous fasse ça. Bien sûr. Bien sûr.
C'était bien sûr de Dom Lebeau et pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie Nicolas Roux, Quentin Dufrane et Michel Binet d'être venus au micro des Aurores Montréal. À la mise en onde et aux choix musicaux, c'était Maurice Bolduc que je remercie bien sûr pour sa précieuse assistance. Demain, en entrevue, je recevrai Juliette Brun, la fondatrice de Juliette et Chocolat qui revient en ville. Et puis en chronique, on aura Léo Mercierville pour sa chronique cinéma. Si vous souhaitez nous réécouter, c'est sur notre site web ou sur les plateformes de podcast. C'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une nouvelle émission.
Envie de t'impliquer dans le présent et le futur de CIBL? L'Assemblée générale annuelle de ta radio communautaire francophone de Montréal aura lieu le 11 décembre à 18h30 au MEM, Centre des mémoires montréalaises. Pour y participer et obtenir plus d'informations, deviens membre sur notre site Internet au www.cibl1015.com en consultant l'onglet « Devenir membre » et abonne-toi au CIBLien, l'infolettre officielle de CIBL. Ta radio compte sur toi.
Ah, la bouffe! Sophie Ginoux et Gilles Dameneux mettent la table pour vous servir tout ce qui se passe dans l'industrie. Au menu, les chefs, les artisans, les producteurs, les initiatives alimentaires, tous les développements autour du mouvement vegan, les solutions au gaspillage, découverte des produits locaux, les tendances et les événements à venir. Plaisir gourmand. tous les mardis, 18h. CIBL, au cœur de la bouffe.
Tonic, c'est une émission dynamique sur le fanzine, la culture underground et les archives littéraires au Québec. Je reçois une zineur zineuse pour jaser d'inspiration et de création chaque mercredi 18h sur les ondes de CBL 105 FM Montréal.
Ici Marc Levasseur. Je vous invite à faire la connaissance de musiciens et de musiciennes passionnés avec les héritiers et les héritières de Django Reinhardt qui nous dévoilent leur vision du monde telle qu'ils et qu'elles l'expriment à travers leurs instruments. Cette musique, le jazz malouche, on l'entend un peu partout à Montréal et on vous propose de la découvrir à coups d'interviews et de performances en direct. Django et compagnie, c'est ce mercredi à 20h.
Communautaire parce que les gens se sentent impliqués là, comme une espèce de longueur d'onde.
CIBL, au cœur de la vie citoyenne.